Chapitre 28. Son bureau, ou plutôt celui de Bendit, n'avait rien pour les dimensions ni l'ameublement du cabinet de M. Vulfranc, qui, avec ses trois fenêtres, ses tables, ses cartonniers, ses grands fauteuils en cuir vert, les plans des différentes usines accrochés aux murs dans des cadres en bois doré, étaient très imposants et bien faits pour donner une idée de l'importance des affaires qui s'y décidaient. Tout petit, au contraire, était le bureau de Bendit, meublé d'une seule table avec deux chaises, des casiers en bois noirci et une chart of the world sur laquelle des pavillons de diverses couleurs désignaient les principales lignes de navigation. Mais cependant, avec son parquet de pitch-pain bien ciré, sa fenêtre au milieu, tendue d'un store en jute à dessins rouges, il paraissait gai à Perrine, non seulement en lui-même, mais encore parce qu'en laissant sa porte ouverte, elle pouvait voir et quelquefois entendre ce qui se passait dans les bureaux voisins. À droite et à gauche du cabinet de M. Vulfranc, ceux des neveux, M. Edmond et M. Casimir, ensuite ceux de la comptabilité et de la caisse, enfin vis-à-vis celui de Fabry, dans lequel des commis dessinaient debout devant de hautes tables inclinées. N'ayant rien à faire et n'osant occuper la place de Bendit, Perrine s'assit à côté de cette porte et, pour passer le temps, elle lut des dictionnaires qui étaient les seuls livres composant la bibliothèque de ce bureau. À vrai dire, elle en eût mieux aimé d'autres, mais il fallut bien qu'elle se contentât de cela, qui lui firent paraître les heures longues. Enfin, la cloche sonna le déjeuner et elle fut une des premières à sortir. Mais en chemin, elle fut rejointe par Fabry et Montbleu, qui, comme elle, se rendaient chez Mère Françoise. « Eh bien, mademoiselle, vous voilà donc notre camarade ?» dit Montbleu, qui n'avait pas oublié son humiliation de Saint-Pipois et voulait la faire payer à celle qui la lui avait infligée. Elle fut un moment déconcertée par ces paroles, dont elle sentit l'ironie, mais elle se remit vite. « La vôtre, non, monsieur !» dit-elle doucement, « mais celle de Guillaume. » Le ton de cette réplique plut sans doute à l'ingénieur, car se tournant vers Perrine, il lui adressa un sourire qui était un encouragement, en même temps qu'une approbation. « Puisque vous remplacez Bendit, » continua Montbleu, qui, pour l'obstination, n'était pas à moitié picard. « Dites que mademoiselle tient sa place, » reprit Fabry. « C'est la même chose. » « Pas du tout, car dans une dizaine, une quinzaine de jours, quand M. Bendit sera rétabli, il la reprendra cette place, ce qui ne serait pas arrivé si mademoiselle ne s'était pas trouvée là pour la lui garder. Il me semble que vous de votre côté, moi du mien, nous avons contribué à la lui garder. Comme mademoiselle du sien, ce qui fait que M. Bendit nous devra une chandelle à tous trois, si tant est qu'un Anglais ait jamais employé les chandelles autrement que pour son propre usage. » Si Perrine avait pu se méprendre sur le sens vrai des paroles de Montbleu, la façon dont on agit avec elle chez Mère Françoise la renseigna, car ce ne fut pas à la table des pensionnaires qu'elle trouva son couvert mis, comme on eût fait pour une camarade, mais sur une petite table à part, qui, pour être dans leur salle, ne s'en trouvait pas moins reléguée dans un coin, et ce fut là qu'on la servit, après eux, ne lui passant les plats qu'en dernier. Mais il n'y avait là rien pour la blesser. Que lui importait d'être servi la première ou la dernière et que les bons morceaux eussent disparu. Ce qui l'intéressait, c'est d'être placé assez près d'eux pour entendre leur conversation et, par ce qu'ils diraient, de tâcher de se tracer une ligne de conduite au milieu des difficultés qu'elle allait affronter. Il connaissait les habitudes de la maison, il connaissait M. Vulfranc, les neveux, Talouel, de qui elle avait si grand peur. Un mot d'eux pouvait éclairer son ignorance en lui montrant des dangers qu'elle ne soupçonnait même pas, lui permettre de les éviter. Elle ne les espionnerait pas, elle n'écouterait pas aux portes. Quand il parlerait, il saurait qu'il n'était pas seul. Elle pouvait donc sans scrupule profiter de leurs observations. Malheureusement, ce matin-là, ils ne dirent rien d'intéressant pour elle. Leur conversation roula tout le temps du déjeuner sur des sujets insignifiants, la politique, la chasse, un accident de chemin de fer. Et elle n'eut pas besoin de se donner un air indifférent pour ne pas paraître prêter attention à leur discours. D'ailleurs, elle était forcée de se hâter ce matin-là, car elle voulait interroger Rosalie pour tâcher de savoir comment M. Vulfranc avait appris qu'elle n'avait couché qu'une fois chez Mère Françoise. C'est le mince qui est venu pendant que nous étions à Piquigny. Il a fait causer tante Zénobie sur vous, et vous savez, ça n'est pas difficile de faire causer tante Zénobie, surtout quand elle suppose que ça ne vaudra pas une gratification à ceux dont elle parle. C'est donc elle qui a dit que vous n'aviez passé qu'une nuit ici, et toutes sortes d'autres choses avec. Quelles autres choses? Je ne sais pas, puisque je n'étais pas là, mais vous pouvez imaginer le pire. Heureusement, ça n'a pas mal tourné pour vous. Au contraire, ça a bien tourné, puisqu'avec mon histoire, j'ai amusé M. Vulfranc. Je vais la raconter à tante Zénobie, ce que ça la fera rager. Ne l'excitez pas contre moi. L'exciter contre vous, maintenant, il n'y a pas de danger. Quand elle saura la place que M. Vulfranc vous donne, vous n'aurez pas de meilleur ami de semblant. Vous verrez demain. Seulement, si vous ne voulez pas que le mince apprenne vos affaires, ne les lui dites pas à elle. Soyez tranquille. C'est qu'elle est maligne. Mais me voilà avertie. À 3 heures, comme il en avait prévenu, M. Vulfranc sonna Périne et ils partirent en voiture pour faire la tournée habituelle des usines, car ils ne laissaient pas passer un seul jour sans visiter les différents établissements, les uns les autres, sinon pour tout voir, au moins pour se faire voir en donnant ses ordres à ses directeurs après avoir entendu leurs observations. Et encore, y avait-il bien des choses dont il se rendait compte lui-même, comme s'il n'avait point été aveugle par toutes sortes de moyens qui suppléaient ses yeux voilés. Ce jour-là, ils commencèrent la visite par Flexel, qui est un gros village où sont établis les ateliers du peignage du lin et du chanvre. Et en arrivant dans l'usine, M. Vulfranc, au lieu de se faire conduire au bureau du directeur, voulut entrer, appuyé sur l'épaule de Périne, dans un immense hangar où l'on était en train d'emmagasiner des ballots de chanvre qu'on déchargeait des wagons qui les avaient apportés. C'était la règle que partout où il allait, on ne devait pas se déranger pour le recevoir, ni jamais lui adresser la parole, à moins que ce ne fût pour lui répondre. Le travail continua donc comme s'il n'était pas là, un peu plus hâté seulement, dans une régularité générale. « Écoute bien ce que je vais t'expliquer, » dit-il à Périne, « car je veux pour la première fois tenter l'expérience de voir par tes yeux en examinant quelques-uns de ces ballots qu'on décharge. » Tu sais ce que c'est que la couleur argentine, n'est-ce pas ? Elle hésita. Ou plutôt la couleur gris-perle. Gris-perle, oui, monsieur. Bon, tu sais aussi distinguer les différentes nuances du vert, le vert foncé, le vert clair, et aussi le gris brunâtre, le rouge ? Oui, monsieur, au moins à peu près. À peu près suffit. Prends donc une petite poignée de chanvre à la première balle venue et regarde-la bien de manière à me dire quelle est sa nuance. » Elle fit ce qui lui était commandé et après avoir bien examiné le chanvre, elle dit timidement « Rouge, est-ce bien rouge ? Donne-moi ta poignée. » Il la porta à ses narines et la flaira. « Tu ne t'es pas trompé, dit-il, ce chanvre doit être rouge en effet. » Elle le regarda surprise, et comme s'il devinait son étonnement, il continua. « Sans ce chanvre, tu lui trouves, n'est-ce pas, l'odeur de caramel ?»« Précisément, monsieur. »« Eh bien, cette odeur veut dire qu'il a été séché au four où il a été brûlé, ce que traduit aussi sa couleur rouge. Donc, odeur et couleur, se contrôlant et se confirmant, me donnent la preuve que tu as bien vu et me font espérer que je peux avoir confiance en toi. » Allons à un autre wagon et prends une autre poignée de chanvre. Cette fois, elle trouva que la couleur était verte. Il y a 20 espèces de vert. À quelle plante rapportes-tu le vert dont tu parles ? À un chou, il me semble. Et de plus, il y a par place des taches brunes et noires. Donne ta poignée. Au lieu de la porter à son nez, il l'étira des deux mains et les brins se rompirent. « Ce chanvre a été cueilli trop vert, dit-il, et de plus, il a été mouillé en balle. Cette fois encore, ton examen est juste. Je suis content de toi, c'est un bon début. » Ils continuèrent leur visite par les autres villages, Bacourt, Hercheux, pour la terminer à Saint-Pipoin, et celle-là fut de beaucoup la plus longue à cause de l'inspection du travail des ouvriers anglais. Comme toujours, la voiture, une fois que M. Vulfranc en était descendu, avait été conduite à l'ombre d'un gros tremble. Et au lieu de rester auprès du cheval pour le garder, Guillaume l'avait attaché à un banc pour aller se promener dans le village, comptant bien être de retour avant son maître, qui ne saurait rien de sa fugue. Mais, au lieu d'une rapide promenade, il était entré dans un cabaret avec un camarade qui lui avait fait oublier l'heure, si bien que lorsque M. Vulfranc était revenu pour monter en voiture, il n'avait trouvé personne. « Faites chercher Guillaume, » dit-il au directeur qui les accompagnait. Guillaume avait été long à trouver, à la grande colère de M. Vulfranc, qui n'admettait pas qu'on lui fît perdre une minute de son temps. À la fin, Perrine avait vu Guillaume accourir d'une allure tout à fait étrange. La tête haute, le cou et le buste raides, les jambes fléchissantes, et il les levait de telle sorte en les jetant en avant qu'à chaque pas, il semblait vouloir sauter un obstacle. « Voilà une singulière manière de marcher, » dit M. Vulfranc, qui avait entendu ses pas inégaux. « L'animal est gris, n'est-ce pas, Benoît ?»« On ne peut rien vous cacher. » « Je ne suis pas sourd, Dieu merci !» Puis, s'adressant à Guillaume, qui s'arrêtait, « D'où viens-tu »«
Monsieur, je vais vous dire...
« Ton haleine parle pour toi, tu viens du cabaret, et tu es ivre, le bruit de tes pas me le prouve. »«
Monsieur, je vais vous dire... »
Tout en parlant, Guillaume avait détaché le cheval et, en remettant les guides dans la voiture, fait tomber le fouet. Il voulut se baisser pour le ramasser, et trois fois, il sauta par-dessus sans pouvoir le saisir. « Je crois qu'il vaut mieux que je vous reconduise à Maraucourt, » dit le directeur.
« Pourquoi ça ?» répliqua insolemment Guillaume, qui avait entendu.
« Tais-toi !» commanda M. Vulfranc, d'un ton qui n'admettait pas la réplique. « À partir de l'heure présente, tu n'es plus à mon service. »
« Monsieur, je vais vous dire... »
Mais sans l'écouter, M. Vulfranc s'adressa à son directeur. « Je vous remercie, Benoît. La petite va remplacer cet ivrogne. » « Sait-elle conduire ?» Ses parents étaient des marchands ambulants. Elle a conduit leur voiture bien souvent. N'est-ce pas, petite ?«
Certainement, monsieur. »
« D'ailleurs, Coco est un mouton. » Si on ne le jette pas dans un fossé, il n'ira pas de lui-même. » Il monta en voiture et Perrine prit place près de lui, attentive, sérieuse, avec la conscience bien évidente de la responsabilité dont elle se chargeait. « Pas trop vite, » dit M. Vulfranc quand elle toucha Coco du bout de son fouet légèrement.
« Je ne tiens pas du tout à aller vite, je vous assure, monsieur. »
« C'est déjà quelque chose. » Quelle surprise quand, dans les rues de Maraucourt, on vit le phaéton de M. Vulfranc conduit par une petite fille coiffée d'un chapeau de paille noire, vêtue de deuil, qui conduisait sagement le vieux Coco, au lieu de le mener du train désordonné que Guillaume obligeait la vieille bête à prendre, bien malgré elle. Que se passait-il donc? Quelle était cette petite fille? Et l'on se mettait sur les portes pour s'adresser ces questions, car les gens étaient rares dans le village qui la connaissaient, et plus rares encore, ceux qui savaient quelle place M. Vulfranc venait de lui donner auprès de lui. Devant la maison de Mère Françoise, la tante Zénobie causait, appuyée sur sa barrière, avec deux commères. Quand elle aperçut Perrine, elle leva les deux bras au ciel dans un mouvement de stupéfaction, mais aussitôt, elle lui adressa son salut le plus avenant, accompagné de son meilleur sourire, celui d'une amie véritable.
« Bonjour, monsieur Vulfranc. Bonjour, mademoiselle Aurélie. »
Et aussitôt que la voiture eut dépassé la barrière, elle raconta à ses voisines comment elle avait procuré à cette jeune personne, qui était leur pensionnaire, la bonne place qu'elle occupait auprès de monsieur Vulfranc, par les renseignements qu'elle avait donnés aux minces.
« Mais c'est une gentille fille, elle ne n'oubliera pas ce qu'elle me doit, car elle nous doit tout. »
Quels renseignements avait-elle pu donner ? Là-dessus, elle avait enfilé une histoire en prenant pour point de départ les récits de Rosalie qui, colportée dans Maraucourt, avec les enjolivements que chacun y mettait selon son caractère, son goût ou le hasard, avait fait à Perrine une légende, ou plus justement sans légende,
devenu rapidement le fond de conversation d'autant plus passionné que personne ne s'expliquait cette fortune subite. Ce qui permettait toutes les suppositions, toutes les explications, avec de nouvelles histoires à côté. Si le village avait été surpris de voir passer M. Vulfranc avec Perrine pour conductrice, Talouel, en le voyant arriver, fut absolument stupéfait. « Où est donc Guillaume ? » s'écria-t-il en se précipitant au bas de l'escalier de sa véranda pour recevoir le patron. « Débarqué pour cause d'ivrognerie invétérée, » répondit M. Vulfranc en souriant. « Je suppose que depuis longtemps vous aviez l'intention de prendre cette résolution, » dit Talouel. « Parfaitement. Ce mot, je suppose, était celui qui avait commencé la fortune de Talouel dans la maison et établi son pouvoir. Son habileté, en effet, avait été de persuader à M. Vulfranc qu'il n'était qu'une main, aussi docile que dévouée, qui n'exécutait jamais que ce que le patron ordonnait ou pensait. « Si j'ai une qualité, disait-il, c'est de deviner ce que veut le patron et, en me pénétrant de ses intérêts, de lire en lui. » Aussi commençait-il presque toutes ses phrases par son mot « Je suppose que vous voulez… » Et comme sa subtilité de paysan toujours aux aguets s'appuyait sur un espionnage qui ne reculait devant aucun moyen pour se renseigner, il était rare que M. Vulfranc eût à faire une autre réponse que celle qui se trouvait presque toujours sur ses lèvres « Parfaitement. » « Je suppose aussi, dit-il en aidant M. Vulfranc à descendre, que celle que vous avez prise pour remplacer cet ivrogne s'est montrée digne de votre confiance ?»« Parfaitement. » »« Cela ne m'étonne pas. Du jour où elle est entrée ici, amenée par la petite Rosalie, j'ai pensé qu'on en ferait quelque chose et que vous la découvririez. » Tout en parlant ainsi, il regardait Perrine et d'un coup d'œil qui lui disait en insistant « Tu vois ce que je fais pour toi, ne l'oublie pas et tiens-toi prête à me le rendre. » Une demande de paiement de ce marché ne se fit pas attendre. Un peu avant la sortie, il s'arrêta devant le bureau de Perrine et, sans entrer, à mi-voix, de façon à n'être entendu que d'elle. « Que s'est-il donc passé à Saint-Pipois avec Guillaume ?» Comme cette question n'entraînait pas la révélation de choses graves, elle crut pouvoir répondre et faire le récit qu'il demandait. « Bon, dit-il, tu peux être tranquille. Quand Guillaume viendra demander à rentrer, il aura affaire à moi. »